Radio Show, l'interview.
Vous écoutez Radio 1, il est 8h27. Ce matin, on apprend à faire des économies avec l'espace info énergie d'Aroué. Et pour ça, je reçois Aoudia. Bonjour.
Bonjour.
Alors, est-ce que tu peux déjà nous présenter l'espace info énergie? Parce que vous êtes assez jeune, vous avez qu'un an seulement. Et donc, je ne sais pas si c'est vraiment très connu. Donc, au cas où les auditeurs ne connaissent pas, est-ce que tu peux nous présenter le principe au moins?
Alors, l'espace info énergie est une structure qui a eu ses un an mi-janvier.
Mi-janvier. Ah bah voilà, c'est tout récent. Joyeux anniversaire.
Et en fait, c'est tout un réseau d'espaces info-énergie qui ont été créés déjà depuis 2001 par l'ADEME, l'Agence pour le développement et la maîtrise de l'énergie. Donc l'ADEME a créé ce réseau de spécialistes en énergie et il existe 250 en France et en Outre-mer. Et c'est le tout premier en Polynésie. Et ça sera le seul normalement. Hein. Donc là, on a presque 12 mois d'activité et... en Polynésie, le pays et l'ADEME ont signé une convention cadre en fait pluriannuelle sur la thématique de l'énergie. Donc en fait, c'est pour informer le grand public sur les économies d'énergie. Et en parallèle de cette convention-là, il y a l'association 2D Attitude qui porte l'espace info-énergie, qui avait déjà travaillé depuis 2 ans sur un projet d'agence de l'énergie. Donc ces trois acteurs-là, ils se sont regroupés, donc ils ont décidé de créer le premier espace info-énergie. Donc c'est une structure qui est portée par une association, qui est ouverte principalement au grand public, mais on s'adresse également aux établissements scolaires, aux associations, aux petites entreprises. Et le service est gratuit pour la population.
Pour avoir des renseignements. Que pour la population, c'est gratuit?
C'est un service gratuit pour tous.
D'accord. Alors, le bilan, justement, au bout d'un an, qu'est-ce que vous avez constaté?
Alors, au bout d'un an, on a fait plusieurs actions. Donc, on peut revenir sur les grandes actions. On a tenu des stands lors de grands événements, tels que la fête de la science, le salon de l'habitat.
Ah, oui.
On intervient aussi dans les établissements scolaires pour sensibiliser au développement durable.
C'est vrai qu'au salon de l'habitat, vous aviez un stand et on avait goûté. Hein, en tout cas, moi, j'ai pas eu le temps parce qu'ils ont tout mangé. C'est un gâteau qui avait été cuit au soleil.
Oui, alors on avait présenté notre four solaire. Hein, donc voilà. c'est fait maison. Hein. Et on avait essayé de cuire un gâteau et.
Bah, je me doute qu'il devait être bon puisque quand je suis arrivée, il y en avait déjà plus.
Voilà. Donc c'était cuit déjà.
Et puis aussi, vous aviez eu un programme avec le lycée de Taravao, si je ne me trompe pas.
On avait apporté la maquette phare bioclimatique, donc qui a été réalisée par les élèves assistants bac pro du lycée de Taravao. Et ils ont même participé une demi-journée à expliquer aux visiteurs leur travail.
Ça s'est bien passé?
Ça s'est très bien passé. Les visiteurs étaient très contents et de toute façon, c'est une première en Polynésie, hein, ce projet de phare bioclimatique. Et c'est une thématique qui commence tout juste à décoller ici.
Et pour ces élèves, il y a eu une révélation. Comment ils ont réagi par rapport à cette thématique?
Apparemment, selon leur témoignage à eux et le témoignage du professeur qui a suivi le projet, Raymond Afonska, les élèves ont été très 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 impliqués dans le projet. Ils disaient même que à l'heure du déjeuner, au lieu de prendre une heure pour aller manger, ils allaient vite chercher le casse-croûte et revenaient en atelier pour continuer à travailler sur la maquette.
Ouais, ils sont vraiment impliqués dans ce...
Tout le monde se sont impliqués, chacun a pris une partie du travail, donc c'était l'ameublement, la peinture, le collage, les abords du faré, la déco, parce que ça a été même jusqu'à peindre le tiféfé sur le lit de...
Attention, hein.
La deuxième chambre du faré bioclimatique.
Donc tout le monde a contribué un petit peu à ce travail.
Oui,
justement.
C'était vraiment un beau projet. Et puis pour les remercier, on a organisé une visite donc avec l'ADEME et le pays sur Auréa. Et on a emmené les élèves visiter le faré bioclimatique de l'OPH qui a été réalisé... sur le site de Berkeley. Hein. Donc là, ils ont pu découvrir une réalisation grandeur nature de qu'est-ce qu'un phare bioclimatique. Donc c'est un prototype qui a été pensé, réalisé par l'OPH.
Et qu'est-ce qu'ils en ont pensé? Alors,
ils étaient très surpris parce qu'il y a eu aussi les résultats en fait, de l'étude thermique du bâtiment. Il y a eu le témoignage de la famille qui y a habité pendant un an.
Oui.
Et il y a également eu l'étude sociologique en amont du phare.
Donc tout ça, ça les a émerveillés à mon avis.
On a passé en tout cas une bonne journée à Montréal, bien riche en témoignages et en...
À En échange. Alors, justement, donc c'est pas les seules choses que vous avez faites au bout d'un an, mais c'est déjà pas mal hein, en un an de faire tout ça.
Il y a déjà beaucoup d'événements grand public. Hein. Il y a également la Journée européenne du solaire, où là, on a organisé des visites sur site. Donc, on a invité les particuliers à visiter une installation photovoltaïque chez un particulier. Et on a également organisé une visite d'installation photovoltaïque dans une école. Et là, à ce moment-là, on a invité des personnes, des gestionnaires d'établissements, du directeur d'établissement, pour découvrir qu'est-ce qu'une installation photovoltaïque dans un établissement scolaire.
Alors, c'est vrai qu'en Polynésie, on connaît assez mal les énergies. C'est dû à quoi, selon toi ?
Je pense que ce n'est pas le fait de mal connaître les énergies, c'est plus, pour le moment, un retard dans la prise de conscience qu'il faut préserver notre fénois. Bien qu'on le répète déjà depuis tout petit, que c'est intégré dans le programme scolaire, pratique, on constate que les gestes simples, pour moi, c'est de l'éco-citoyenneté, c'est de même du civisme, c'est pas appliqué. Et après, on peut parler...
Ce sont pas des habitudes, en fait.
C'est pas encore ancré dans les habitudes, bien que ça soit enseigné dès tout petit, dès la maternelle.
Oui, c'est vrai.
Pour les enfants.
Donc,
c'est un retard qu'on a par rapport aux autres pays, parce que la réglementation est plus longue, parce qu'on est éloigné, parce que plein de choses et parce que...
Beaucoup de causes, oui, beaucoup de raisons.
On a eu un mode de vie ici qui fait qu'on se préoccupe pas trop non plus de ce qui se passe ailleurs.
Oui, c'est vrai. On est un peu perdu dans le Pacifique, hein. C'est dû à ça aussi. Justement, pour changer ça, qu'est-ce qu'il faudrait faire selon toi ?
Déjà venir à l'espace Info Énergie, ça serait pas mal.
Oui, se renseigner.
Non,
écouter à l'école les enfants aussi.
Non, c'est ouvert à tous, c'est gratuit, donc profitez-en. Hein. C'est vraiment des conseils de base, des conseils personnalisés aussi, gratuits pour vous aider à faire des économies d'énergie. Et qui sont pas, c'est pas juste éteindre la lumière quand tu sors de la pièce, hein, pour moi c'est du civisme. Ensuite on passe à un niveau au-dessus, c'est regarder un petit peu les ampoules performantes, s'équiper en électroménager performant, regarder un peu toutes les consommations cachées qu'il existe dans sa maison. Si on a la clim, on essaye de limiter l'utilisation de la clim en fonction des saisons. Ici, on n'a pas la saison d'hiver, mais on a au moins une saison fraîche.
Ouais.
Donc, on peut limiter l'utilisation. Et tout ça peut nous faire économiser une à deux factures d'électricité en fonction des thématiques. Et ça, on l'a calculé, quoi.
Toi, tu vis comme ça ?
Ben, c'est pour moi, c'est naturel, en fait.
Depuis que tu es toute petite ou c'est venu après ?
C'est venu progressivement. Depuis toute petite, déjà, on n'avait pas non plus grand-chose à la maison. Donc, c'était très, très basique. Mais j'ai grandi avec. Donc pour moi...
C'est normal, quand on sort d'une pièce, on éteint la lumière.
Oui, c'est normal d'éteindre l'eau quand je me douche, c'est normal d'éteindre...
Quand on se brosse les dents, on coupe l'eau.
Oui, voilà, c'est...
Et si quelqu'un le fait chez toi, tu vas crier?
Bah, je suis obligée, hein.
Oui, c'est vrai que ça va pas trop avec ton métier. Voilà, c'est vrai que je vois pas quelqu'un le faire à côté de toi.
Mais c'est naturel, quoi. C'est ancré déjà hein, dans les habitudes.
Voilà. Alors, on va juste faire une courte pause, et puis on va revenir juste après pour parler des formations que vous avez décidé d'organiser, formations qui sont gratuites, hein, je le rappelle. Vous aurez toutes les infos juste après la pause.
Radio Show, l'interview. Radio Show, l'interview.
Vous écoutez Radio 1, il est 8h40. On est toujours en compagnie de Ahoutia qui nous aide à justement économiser nos énergies avec l'espace Info Énergie. Alors juste avant, on allait évoquer justement les formations que vous proposez au grand public, formations qui sont gratuites. Comment ça se déroule ces formations ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'on peut voir à l'intérieur ? Combien de temps ça dure ?
Alors, les formations grand public durent à peu près 1h30, 2h, ça dépend hein, des discussions, de l'échange, de l'interaction. Et on voit trois grandes parties dans cette formation. Donc, on balaye le réchauffement climatique, le développement durable. Donc, on resitue un petit peu toutes les notions que chacun a dans sa tête, trou dans la couche d'ozone, atmosphère, pollution.
C'est participatif
C'est participatif. Donc,
d'accord.
On part de ce que les personnes connaissent, donc la base. Hein. On part des connaissances, on restructure un peu tout ça, on met les idées en place. Ensuite, on aborde les impacts du réchauffement climatique sur la Polynésie. Donc, on fait un focus sur la Polynésie. On parle de notre dépendance énergétique, hein, puisqu'on sait qu'on est dépendant à plus de 80%, à plus de 80% des énergies fossiles, donc qu'on va chercher à l'extérieur, qu'on apporte. Et ensuite, on se focalise sur qu'est-ce que je peux faire à mon niveau. Donc là, on peut regarder la facture d'électricité et on parle essentiellement aussi des éco-gestes qu'on peut faire à la maison.
Tout simplement. Enfin, tout simplement. Justement, les gestes, on va les voir. Quels sont les gestes qui sont simples, mais donc nécessaires à la fois pour apprendre à économiser l'énergie?
Donc, on avait évoqué les équipements performants, par exemple. Donc, ouais. Il faut savoir que pour tout ce qui est électroménager, télé, frigo, congélateur, etc., il existe des étiquettes énergie. Donc la plus qu'on retrouve sur le territoire, c'est l'étiquette énergie européenne. Donc en fait, c'est une indication pour le consommateur de choisir un équipement performant qui consomme peu d'énergie. Et la lecture se fait avec une échelle de classification. Donc la classe A, par exemple, est la classe qui consomme le moins d'énergie.
Donc c'est quand on achète par exemple un frigo ou de l'électroménager, on doit regarder ça pour faire attention.
Il faut regarder la classe énergétique, il faut regarder la consommation kilowattheure qui est indiquée sur cette étiquette énergie et en plus, il faut bien faire attention que ça soit du 220 60 Hz puisque ici c'est le cas.
D'accord. Et est-ce que les vendeurs utilisent cet argument pour vendre? Ou c'est un argument qui ne marche pas?
Non, pas forcément. Ça dépend du niveau de connaissance des consommateurs ou même des professionnels. On a fait un événement étiquette énergie l'année dernière, donc en décembre, pour les fêtes. Et on s'est positionné dans différents lieux de vente d'électroménager. Et on s'est rendu compte que l'étiquette était bien présente et que les produits y étaient. Donc tu pouvais retrouver des appareils performants. Donc ça y est, après, il faut que le consommateur soit au courant aussi.
Voilà, c'est ça.
Parce que généralement, on achète, on regarde juste le prix. Donc c'est seul indicateur pour le moment. Mais qu'est-ce qui te coûte le plus cher dans ton frigidaire? C'est l'électricité que tu vas payer.
Mais c'est vrai qu'on ne pense pas comme ça.
C'est pas le prix. Le prix, c'est... Ça te fausse, en fait. Il faut regarder le coût global de ton appareil, donc le prix d'achat et le prix d'exploitation.
Tout ça, c'est ce que vous expliquez durant vos formations?
Ça, c'est ce qu'on explique dans les formations et également en permanence. Donc, les personnes peuvent venir nous rencontrer directement à notre local à Arouet.
Ah oui, oui.
Le matin, on les accueille et puis on fait un conseil personnalisé.
Personnalisé? Comment ça se passe?
Les personnes viennent, ils nous posent soit des questions précises en fonction de leur projet, soit ils veulent tout simplement réduire la facture d'électricité. Et là, on fait la liste des éco-gestes possibles dans la maison. Donc là, on a évoqué les électroménagers performants. On peut évoquer aussi les veilles. Donc tout le monde sait que les veilles, ça consomme.
Ça consomme aussi.
Mais pour le moment, on éteint sa télé et puis le petit point rouge, il reste toute la nuit et toute la journée quand on part au travail. Donc ça, on le sait. Mais
un écran en veille aussi, voilà, évidemment.
Un écran en veille, c'est 20 à 30% de sa consommation en marche. Donc en fait, il consomme beaucoup.
Oui, on ne se rend pas compte.
On se rend pas compte.
Éteint, de toute façon, ça consommera moins que quand c'est allumé.
Oui.
Mais en fait, non.
Ta télé te coûte plus cher en veille que quand tu la regardes 4 heures le soir, quoi.
D'accord, oui.
Et ça, on ne se rend pas compte. Ce sont des consommations cachées. Et on s'est même rendu compte à l'aide d'un consommètre, parce qu'en fait, on prête... c'est un consommateur qui mesure la puissance instantanée des appareils électriques. On s'est rendu compte que même un appareil éteint, donc en fait on éteint la veille directement, donc ma télé là qui est en veille, je l'éteins, elle reste branchée. En restant branchée, il y a toujours des consommations qui passent.
Et c'est ce qu'on peut constater avec le...
Et ça, c'est ce qu'on a constaté avec cet appareil là.
C'est incroyable. Enfin... Incroyable, non, je le savais déjà, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui ne le savent pas et qui n'y pensent pas justement à ce genre de consommation cachée.
C'est dans les habitudes de laisser la télé en veille.
Selon toi, pourquoi en Polynésie on n'essaie pas plus d'utiliser les ressources de la planète? Enfin, je parle plutôt pour tout ce qui est vent, l'air, le soleil, puisque je constate qu'en Polynésie, on attend que ce soit... vide, perdu, un peu comme la tortue. Bah, on consomme de la tortue, on consomme de la tortue. On se posera la question, après, une fois qu'il n'y en aura plus, il n'y en avait plus, comme on aurait dû faire, et c'est trop tard, quoi.
Par rapport au photovoltaïque, pour les particuliers, je parle, c'est pas si évident que ça. Hein. Le solaire, c'est pas la solution magique. Mm-hmm. Les énergies renouvelables ne sont pas la solution magique au réchauffement climatique.
Mm-hmm.
Parce que c'est un coût financier derrière. Pour un particulier, si tu n'as pas une facture d'électricité qui dépasse 10 000 francs, ce n'est pas la peine d'investir dans un système photovoltaïque. Ton retour sur investissement sera trop lent et vaut mieux pour toi, qui a une facture d'électricité de 10 000 balles, de réduire avec des économies d'énergie. Ouais. Tu auras plus de... ça sera plus avantageux pour toi que de sortir de l'argent et d'investir dans, et un, oui. dans un système, sachant ouais. que c'est un coût, que derrière,
c'est onéreux, oui.
pour
c'est
un panneau photovoltaïque, il faut attendre 2 ans pour que tu produises de l'énergie propre, parce qu'en fait, il faut compenser l'énergie qui a été nécessaire pour mm-hmm. produire ton panneau. Et cette énergie-là ne sera neutre qu'au bout de 2 ans d'utilisation. Et après, en fin de vie de ton produit, il n'existe pas de filière de retraitement des panneaux photovoltaïques. Donc ça, il faut penser. La filière ici, elle n'est pas complète, en fait, en Polynésie. Ce qui fait que, pour le moment, on ne sait pas où se retrouvent les panneaux déjà qui ont été installés dans les toits moto ou qui ont plus de 30 ans. Un panneau dure 25 à 30 ans. Hein.
Donc comme pour tout, c'est du temps et de l'argent.
C'est du temps et de l'argent. Et le plus facile, le plus rapide et le plus économique, c'est vraiment de maîtriser sa consommation d'énergie. Ça, c'est le plus simple, le plus rapide, le plus économe.
Eh bien, écoute, Ahoutia, merci pour tous ces bons conseils. Alors, on va juste rappeler les petites infos pratiques. Hein.
Alors, numéro de téléphone. Pratique, numéro de téléphone 85 20 85. Bon, vous pouvez nous contacter par téléphone, par mail. Donc, c'est eie@mail.pf. Notre local est situé à Arouet, donc dans l'immeuble Reymoana à l'étage. Donc, en fait, c'est juste après le McDo de Arouet. Et là, nos permanences sont ouvertes jusqu'à midi, donc ouais. de 7h30 à midi.
Le matin.
Et puis, par contre, l'après-midi, c'est sur rendez-vous.
D'accord.
Donc, c'est bien juste de prévenir une heure à l'avance que vous voilà. allez passer.
Je rappelle le numéro de téléphone, justement, pour ceux qui veulent prendre rendez-vous. 85 20 85. Et puis, le mail EIE, comme espace info énergie, @mail.pf. Je te remercie beaucoup d'être venu parler dans notre émission.
Merci à toi.
Et puis, je te souhaite de passer une bonne journée, surtout bon week-end.
Radio Show, l'interview.